Merci Esprit Saint de venir sur nous. Merci de venir ouvrir nos cœurs pour nous permettre d'entendre la parole de Dieu. On peut l'entendre simplement avec nos oreilles, comme tout le monde. Mais si tu es là, Esprit Saint, on l'entend avec notre cœur et avec notre foi. Et là, cette parole porte du fruit. Ce n'est plus simplement une parole humaine, mais c'est la parole de Dieu. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, à partir du verset 9. Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien se tenait là et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste et non pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Voilà, cette parabole du Seigneur, c'est une histoire, mais en même temps, cette parabole, elle nous rejoint chacun d'entre nous. Une parabole, c'est une histoire que Jésus a inventée, qui a un aspect un petit peu énigmatique, pour que nous creusions cette histoire et que nous voyons comment elle nous parle, de quelle manière cette histoire nous parle. Si une parabole ne nous parle pas, c'est que quelque part, notre cœur n'est pas ouvert. La parabole du Seigneur, ça concerne toujours chacun d'entre nous, mais en même temps, c'est une histoire qu'on regarde d'abord à distance. Parce que quand on regarde les choses à distance, on est meilleur juge que quand on se regarde soi-même, où on ne sait pas très bien toujours être objectif. Alors le Seigneur met en scène deux hommes, l'un qui était pharisien, alors du temps de Jésus, les pharisiens, c'est ceux qui appartenaient à un groupe religieux et qui affirmaient mieux mettre en œuvre la loi, ils lisaient l'Écriture sainte, la Torah chez les Juifs, et ils étaient fiers d'appartenir à ce groupe religieux, ils pensaient mieux mettre en œuvre la loi que les autres, et d'ailleurs souvent ils la connaissaient mieux que les autres. Donc il y avait une fierté des pharisiens. Les publicains, au temps de Jésus, c'était les collecteurs d'impôts, ceux qui collectaient les taxes. Et ces gens-là avaient très mauvaise réputation, d'abord parce qu'on n'est jamais très heureux de payer des taxes, mais surtout parce que il y avait les taxes, ils les collectaient pour les Romains. Et donc, ces gens-là touchaient sans cesse de l'argent, et ils en mettaient au passage dans leur poche, parce qu'il n'y a pas vraiment de vérification, donc ils pouvaient rajouter un petit peu leur pourcentage personnel dans les taxes qu'ils percevaient. Donc c'était des gens qui étaient réputés pas honnêtes, profitant du malheur des autres, si j'ose dire, et s'en mettant plein les poches. Le Seigneur, dans ses paraboles, fait exprès d'inverser les situations. Ceux dont tout le monde pense qu'ils sont nuls, ben, claque, il va montrer que celui-là, il est bien. Et ceux dont tout le monde pense qu'ils sont bien, ben, le Seigneur va montrer qu'il y en a qui ne sont pas si terribles que ça. Il est toujours en train d'inverser les situations pour nous faire sortir de nos a priori. Le Seigneur, s'il était aujourd'hui, il nous sortirait de nos a priori. Donc s'il y a des gens que vous méprisez, vous êtes sûr que le Seigneur va les prendre pour les montrer en exemple. C'est toujours comme ça. Le Seigneur essaie de nous faire sortir de nos a priori pour nous montrer qu'il ne faut pas se laisser enfermer par les a priori, mais que, eh bien, Dieu est présent partout et particulièrement dans les plus pauvres, et parfois ceux qu'on méprise le plus, comme on le voit dans cette parabole. Alors le Seigneur montre ces deux hommes qui vont au temple. Il y en a un qui fait sa prière et l'autre aussi. Les deux font leur prière. Alors ce qui est important, c'est d'abord l'endroit où ils se placent dans le temple. Il y en a un qui se met devant tout le monde, puis l'autre il se met derrière, tout au fond, voilà, bien caché. Et puis, ce n'est pas simplement le fait de se mettre devant qui est grave, parce qu'on a le droit de se mettre devant dans une église, mais il se met devant pour être vu des autres. C'est ça qui est l'intention qui compte plus, c'est l'intention. Et l'autre il se met derrière pour ne pas être vu des autres. Donc il y en a un qui prie pour être vu et l'autre qui ne veut pas être vu quand il prie. Quand on regarde leur prière, on s'aperçoit qu'il y en a un qui a une prière très longue, bien construite, puis l'autre il a une prière très courte. On pourrait se dire, parfois on se dit, Seigneur, si jamais arrive avec une belle prière bien rédigée, très longue, ça va faire de l'effet à Dieu, pas forcément. Parfois une prière très courte, ça fait plus d'effet qu'une prière très longue et bien dite. Alors, apparemment, cette prière du pharisien, elle est superbe. Mon Dieu, je te rends grâce. Je remercie Dieu, c'est super, ça y est, c'est bien parti. On dit que cet homme, il est génial. Il remercie Dieu, le fait de prier, c'est d'abord remercier Dieu, c'est rendre grâce à Dieu pour tous ses biens. Mais tout de suite, ça tourne au vinaigre. Je te rends grâce, pourquoi? Parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que tu es généreux, parce que tu me pardonnes mes péchés. Je te rends grâce parce que je suis un homme super. On peut le dire, modestement on peut le dire. Je ne suis pas comme les autres. Voilà. Donc je te rends grâce parce qu'en fait je suis supérieur aux autres. Donc là c'est déjà mal barré. Et je ne suis surtout pas comme les voleurs, les injustes, les adultères, tous ces pauvres types qui font le mal. Je sais qu'il y en a beaucoup dans ce monde, Seigneur. Tu le sais comme moi que des gens qui sont pas honnêtes, il y en a beaucoup. Hein. Des gens qui sont adultères, il y en a beaucoup. Enfin bref, des gens qui ne sont pas comme moi, il y en a beaucoup, tu le sais, Seigneur. Donc je te rends grâce de ne pas être comme eux. Voilà. En plus, je jeûne deux fois par semaine, tu auras remarqué. Du haut du ciel, tu auras bien vu que je jeûne deux fois par semaine. Donc c'est plus que ce qu'on me demande. En plus, je verse le dixième de tout ce que je gagne. Et à l'époque, on demandait aux pratiquants, aux croyants, de verser le dixième sur certaines choses, pas sur tout. Donc j'en fais plus. Je fais plus que ce que la loi me demande, donc tu auras quand même remarqué que, sur tout point de vue, je suis nickel chrome. Voilà, c'est sa prière de cet homme très fier de lui-même. Et en sortant, il est persuadé qu'il a fait une super prière. Il bombe le torse et il sort du temple très fier de lui. Voilà. Et puis le publicain, qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, qui tient à distance, qui se frappe la poitrine, qui se demande « Est-ce que Dieu va écouter ma prière ?» Moi, pauvre type, moi je suis tellement pécheur, je ne suis même pas sûr que Dieu va écouter ma prière. Est-ce que ça peut l'intéresser, une prière comme celle qui vient de moi ? Et il dit « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. » Il n'ose même pas en dire plus, parce que peut-être qu'il pense que de toute façon, ce n'est pas la peine que j'en dise plus, parce que de toute façon, peut-être que je ne suis même pas digne que Dieu ait pitié de moi. Donc vous voyez, cet homme très humble, qui se sent méprisé et qui lui-même pense être méprisable. Il pense être méprisable, cet homme. Il se sent méprisé et il dit à Dieu, ben, si on méprise, c'est à juste titre parce que je suis méprisable. Voilà. Eh bien, c'est cet homme, nous dit le Seigneur, qui sort du temple très honteux de lui-même, qui est justifié, c'est-à-dire ses péchés sont pardonnés, alors que ce pharisien très fier de lui-même n'a rien obtenu par sa prière. Mais non seulement il n'a rien obtenu, mais il a offensé ses yeux par cette prière. Voilà. Et donc le Seigneur dit qu'il s'élève sera abaissé, qu'il s'abaisse sera élevé. Alors cette parabole, on peut la transposer dans toute situation de notre vie. Vous savez, on a tellement envie dans notre vie, par exemple, quand on a fait quelque chose du bien, de dire « T'as remarqué là, j'ai nettoyé tout ça, t'auras remarqué quand même. » Voilà. On a souvent envie de se faire remarquer de Dieu ou des autres. C'est toujours une tentation forte. Parfois on y succombe. De s'élever par nous-mêmes, de dire aux autres, de faire comprendre aux autres qu'on est vraiment quelqu'un de bien. Alors que le Seigneur ne nous invite pas à nous flageller, bien sûr, mais il nous invite à être humble, à être pauvre. Et quand on est humble et pauvre, non seulement la relation à Dieu est belle, puisque Dieu va nous combler de grâce, mais la relation aux autres est plus facile aussi. Parce que si vous essayez d'en imposer aux autres, tout de suite on part dans une relation faussée. Et très souvent, ça va générer de la violence. Alors que si on fait une posture d'humilité, ben oui, voilà, moi je suis pauvre, je ne suis pas meilleur que toi, etc. Et d'ailleurs, c'est vrai. Et surtout, on ne cherche pas à se comparer. La relation aux autres va être plus facile, parce que dès qu'on est dans l'humilité, eh bien les autres sont aussi touchés. Voilà. Voilà. Alors le Seigneur nous invite vraiment à cette humilité, et quand on se demande comment obtenir des grâces de Dieu dans ses prières, eh bien c'est d'abord par l'humilité. D'abord par l'humilité du cœur. Alors maintenant, je vais demander à Marie de venir pour nous donner son témoignage. Voilà, c'est un message de Marie, je vais vous donner pour prier pour elle très fort.
Bonsoir à tous. C'est un peu intimidant, mais c'est avec plaisir que je viens témoigner ce soir. Vous m'entendez bien, ça va?
D'accord.
J'ai préféré écrire le témoignage de façon à ce que je n'en dise pas plus, mais que ce qui doit être dit soit tout de même dit. Je vais appeler trois grâces pour notre famille grenobloise le 10 décembre 2015. J'ai eu connaissance de cette belle prière des malades par une émission de la chaîne Cato, et donc depuis presque 2 ans, lorsque je suis sur Paris un jeudi, je viens à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs et confie à Jésus tous les malades de ma famille ou des amis que je connais, souvent avec des larmes aux yeux, en imaginant que peut-être pour l'un ou l'autre. Je suis un peu intimidée, mais heureuse de venir donc témoigner aujourd'hui avec mon mari, Michel, qui m'accompagnait ce soir-là à la prière du jeudi 10 décembre. Nous habitons Grenoble et je viens mensuellement pour œuvrer avec d'autres personnes dans une association de malades atteints d'une maladie cancéreuse de la moelle osseuse. Je précise que l'église était si pleine que nous ne pouvions pas du tout voir l'autel ce jour-là qui nous tournait le dos. Et de plus, derrière un gros pilier. J'ai rassuré mon mari lorsque nous nous sommes assis en lui disant que le Seigneur nous donne souvent notre place et que, quel que soit l'endroit où nous sommes, le Seigneur viendra nous visiter, nous parler, il nous reconnaît. Je regardais en face de moi, au loin, la peinture de la face du Sacré-Cœur. J'avais cette image. Ce jour-là, donc, mon époux, âgé de 59 ans, a reçu une grâce de guérison. Une parole de connaissance annoncée disait qu'une personne atteinte d'une maladie de peau au niveau de son visage était guérie par le Seigneur. En sortant de l'église, Michel ne disait toujours rien. Lui, atteint d'un psoriasis sur le cuir chevelu et sourcils derrière les oreilles depuis une quarantaine d'années. J'ose lui poser alors timidement la question. Tu as entendu la guérison de la maladie de peau? Ça t'a fait penser à quoi? Il me répond. Oui, mais bon, ça ne peut pas être moi. Je préfère rester prudent. Je lui dis. Quand la parole a été dite, j'ai baissé la tête et j'ai ressenti avec émotion qu'il ne pouvait s'agir que de toi. Si tu y crois, ta foi te sauvera. Crois, tu peux être guéri. Fais voir ton front. Je regarde ton front alors que nous étions encore sur le trottoir devant l'église. Il n'y avait plus aucune plaque rouge qui saignait, ni de désquamation. Et j'en trouve son cuir chevelu, idem, une peau de bébé. Nous avons attendu jusqu'à aujourd'hui pour assurer qu'il ne remettait plus ses lotions pharmaceutiques, ses pommades dermato, qu'il utilisait chaque matin depuis si longtemps, qu'il ne se grattait plus. Et qu'il avait annulé même un rendez-vous chez le dermatologue programmé parce que le psoriasis était en train de s'aggraver et s'étendait. À quoi bon y aller maintenant? On ne voit maintenant sur les deux côtés de son front qu'une peau cicatrisée plus claire à cet endroit, maintenant encore moins. Même si la peau a tendance à rester sèche, il n'y a plus de transformation en psoriasis. Merci Seigneur pour ce cadeau en ce temps de l'Avent, puisque c'était le temps de la mort. Alors que nous ne l'avions pas demandé, Christ est né, Christ est vivant, il est bon. À l'écoute d'une suivante parole de connaissance sur Jésus qui guérissait une personne ayant des douleurs et des raideurs douloureuses au niveau du visage, j'ai imaginé ma fille, âgée de 33 ans, Ludivine, qui a eu une paralysie faciale il y a 4 ans de cela environ, et avait un nerf endommagé, que l'on appelle névrite, douloureuse sur sa joue droite. Ravissant en proie, la fatigue ne permettant plus qu'elle puisse dormir sur ce côté. Discrètement, quelques jours après être rentrée à Grenoble, je lui ai demandé si elle allait mieux de ses douleurs, raideurs. Et elle m'a dit, oui, justement, c'est bizarre, j'ai eu moins de raideurs depuis une dizaine de jours environ. Et c'était à peu près la date de la prière à Saint-Nicolas. J'ai été surprise de pouvoir dormir sur ma joue droite sans avoir mal. Je lui ai donc dit que c'était formidable, et la parole que j'avais entendue. Elle m'a écoutée en souhaitant rester très réservée, car elle avait besoin d'adopter cette attitude de prudence, elle aussi. Je lui ai dit d'y croire, que le Seigneur aura besoin d'entendre sa foi, comme à mon mari, pour sa guérison complète. À ce jour, de temps en temps, elle me décrit qu'elle sent encore quelques raideurs arriver sur son visage par rapport au froid, au stress, mais qu'elles repartent et qu'elles lui font pas mal comme avant. Je lui ai alors demandé si elle avait repensé à ce qu'elle vivait avant et si elle avait pensé à remercier le Seigneur qui veut s'assurer qu'elle a bien compris que c'est lui, par l'Esprit Saint, qui l'a guérie. Et elle m'a répondu aujourd'hui oui. Je lui dis merci à chaque fois que je m'endors sur ma joue droite. Merci Jésus de l'avoir soulagée. Nous avons même constaté que sa bouche pouvait sourire sans grimace. Un si beau sourire qu'elle avait perdu. Que ton œuvre s'accomplisse, Seigneur, que notre foi grandisse. La troisième grâce que je me dois de raconter, gloire à Dieu, c'est avéré réalisé pour ma maman âgée de 79 ans qui n'était pas avec nous, donc ce jour-là, car elle est un peu fatiguée. Je l'ai confiée à chaque fois que je suis venue à ces célébrations de Saint-Nicolas-des-Champs, avec des bougies allumées, un petit papier, des prières. Car elle a depuis 9 ans la maladie du myélome, qui est une maladie maligne, qui est incurable de la moelle osseuse, qui touche le sang et les os. Ce 10 décembre 2015, une parole de connaissance disant que Jésus guérissait une personne, qui souffrait de fortes crampes douloureuses nocturnes, m'a profondément émue, car j'ai reconnu cet effet indésirable provoqué par les traitements toxiques de chimiothérapie de ma maman. Je l'ai imaginé, cet instant, dans cette situation au quotidien, se lever, se tordant de douleur, essayer de marcher en pleine nuit, ses crampes dans les jambes l'empêchant de rester couchée. Et je l'ai imaginé visité par le Christ. Alors que je n'avais pas parlé de ce détail dans ma prière, il a connaissance de toutes nos difficultés, toutes nos peines, même si on ne les énumère pas. Le Seigneur sait ce qu'il peut faire en chacun de nous. Mon fonctionnement étant toujours le même, ne pas faire de cette prière un numéro de spectaculaire où il y avait eu des guérisons pour ceci, pour cela, mais en préférant parler d'une certaine base, les louanges, les paroles bibliques, les conversions de cœur, l'Esprit Saint parmi nous et les paroles de connaissance en don de Dieu, nous n'avons téléphoné à personne en sortant de l'église. Quelques jours après notre retour à Grenoble, les paroles de guérison mémorisées, je demande à ma maman si elle arrivait à mieux dormir avec ses crampes la nuit. Elle répond que justement, depuis quelque temps, c'était vraiment atténué au niveau de la douleur et qu'elle ne se levait plus pour cela. Je lui ai appris à ce moment-là la parole que j'avais entendue pour elle. Elle m'a répondu dubitative et pudiquement, espérons-le. 4 jours après environ, elle m'interpelle en me disant que la nuit dernière, elle avait eu une crise d'une violence incroyable au niveau de la douleur de ses jambes, qui avait été dans l'obligation de se lever et que cela l'avait fait souffrir énormément. Lorsque j'ai entendu cela, naturellement, je vous avoue que j'ai été très déçue. Et je n'en étais pas en compassion. Contre toute attente, une petite voix m'a soufflé de lui répondre qu'elle ne devait pas oublier ce qu'elle avait avant, ce qu'elle souffrait, qu'elle le mémorise bien, car elle ne l'aurait plus. C'est une épreuve pour que tu crois, lui ai-je dit, encore plus en lui, en ce qu'il souhaite guérir chez toi. Il faut vraiment croire. Ta foi te guérira, tu verras. Et remercie le Seigneur quand tu as moins mal. J'ai dit cela avec une telle assurance que j'en avais un peu le vertige, la surprise d'avoir eu cette croyance à ce moment-là précis. Je ne l'ai pas rappelé pendant quelque temps, mais lorsque je l'ai revue, Elle nous a dit beaucoup plus sur elle. Ah, tu sais, c'est fini, je n'ai plus rien. Elle ressentait bizarrement, comme si des crampes arrivaient, quelquefois, mais elle repartait et ne s'installait plus. Nous sommes retournés, mon époux et moi, à la prière des malades de Saint-Nicolas, le jeudi 4 février 2016, et avons communiqué donc ce témoignage de trois grâces à deux personnes qui nous ont écoutées de façon très fraternelle. Il fallait que nous soyons les témoins des œuvres du Seigneur et lui rendre grâce. Chaque témoignage et chaque merci fait à Dieu est une réelle arme pour lutter contre le doute, l'obscurité, la maladie, le mal. D'ailleurs, je conseille souvent à mes filles de dire tout simplement « Merci Seigneur » si elles ne parviennent pas à prier, à trouver les mots autrement, car c'est déjà un moyen pour se rapprocher de Dieu, pour lui parler. Merci mon Dieu pour ces si beaux cadeaux qui sont le signe de ton amour, de ta puissance divine et de la foi qui nous transporte sur le chemin de la guérison de l'Esprit Saint. Merci pour ce rendez-vous que tu nous donnes à chacun, à Saint-Nicolas-des-Champs, tous les jeudis. Enfin, je voulais vous dire, lors de la dernière célébration du 4 février, j'ai entendu encore les paroles de connaissance qui sont dites par les personnes dans ce charisme. L'une a été évoquée avant les chants et les paroles de connaissance. J'ai soif de votre amour. Après que l'ostentoire, la Sainte Hostie, Saint Sacrement, que Jésus soit passé devant nous en s'éloignant, j'ai été de façon troublante complètement déshydratée et prise d'une grande soif et joie intérieure.
Merci beaucoup, Marie. Vous avez dans ce témoignage trois guérisons et à chaque fois, crois et le Seigneur va agir. Voilà, Marie a encouragé trois fois ces trois personnes de sa famille à croire et les fruits de guérison étaient là. Et bien maintenant, Seigneur, nous te demandons cette foi, nous allons accueillir Jésus au milieu de nous. Nous demandons de nous donner cette foi pour accueillir toutes les grâces que vous nous donnez pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux pour qui nous prions. Amen.